Eh bien, j'aimerais partager. Il y a un mot qui m'est venu, et c'est le mot mais. Vous savez, M-A-I-S. Hein, ce n'est pas les mais succulents, bien que j'espère que ça en sera un peu. C'est pas. Voilà, c'est mais, M-A-I-S. C'est le mais de la foi qu'on trouve dans certains passages. C'est le mais de Dieu. Et on va essayer d'évoquer un peu ça. Ça va un peu dans la continuité de ce que nous a partagé Nadine. Et j'aimerais commencer par une nouvelle. Et c'est une nouvelle qui semble être une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas, vous aimez les mauvaises nouvelles, non? Non? Bon, ouais. Bon. Cet après-midi, donc, il y a Patrick qui m'a appelé. Et vous savez qu'on a eu une étude du sol qui a été faite pour cet étage, pour voir si on pouvait accueillir dans un local public du monde et que l'achat pouvait soutenir. Et l'étude de sol montre que c'est insuffisant. Que c'est insuffisant pour un lieu de culte et donc, a fortiori, pour les séminaires qu'on comptait accueillir. Alors, on a vu aussi Pierre Lichtensteiger, le propriétaire. Il y aurait des solutions. Voilà. Alors, on ne sait pas trop. On est un peu dans l'étonnement parce que l'architecte qui nous suivait jamais nous a alertés sur ce point-là. Et donc, c'est avec cette force, cette confiance qu'on avait dans cet architecte qui lui-même a été à l'origine de la réfection de ce bâtiment, on était un peu embêtés, quoi. Donc on est dans l'expectative, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi je crois que Dieu tient tout dans ses mains. Il faut être attentif. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Est-ce qu'il faut faire des travaux de consolidation? Est-ce qu'il faut. Je ne sais pas. Mais je suis pas du tout. J'essaie de me faire du souci, j'arrive pas. J'ai la paix. Je comprends pas, mais voilà. Hein, bon, ce qui est sûr, c'est que ça va être difficile d'accueillir les grands séminaires qu'on voulait accueillir en février. Donc voilà. Et par rapport à cette nouvelle, c'est là que le mais est venu. Et c'est pour ça que j'aimerais vous partager ce texte. Et il y a un premier texte que j'aimerais qu'on lise, c'est dans Josué 14, versets 8 à 12. Là, il y a un premier grand mais de la Bible. Je vais en donner quelques-uns. Je crois que c'est 5 ou 6. Les mais importants de la Bible. Tout est dans le mais. Hein. Donc Josué 14, versets 8 à 12. Josué 14, versets 8 à 12. Il s'agit de l'histoire de Caleb qu'on a déjà vue ensemble. Mes frères étaient montés avec moi, dit Caleb, firent perdre courage au peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Il rappelait l'épisode dans le désert où les espions sont allés visiter, ils sont revenus et ils ont vu les géants et ils ont dit, nous, on a peur, on ne veut pas rentrer. Mais il dit que lui, il dit, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et donc, dans ce mais, il y a cet homme à contre-courant. Il y a cet homme à contre-courant. Tout le monde dit une chose, mais lui qui marche avec Dieu, il dit autre chose. Et c'est ce mais de Caleb qu'il a prononcé, qui a fait qu'il est rentré dans le pays promis. Il y a parfois des mais très importants dans la vie. L'ennemi dit ceci, mais Dieu dit ça. Ta petite voix, elle dit ça de toi, mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit lui? C'est ça qui est important. C'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que les hommes disent, c'est pas ce que les circonstances disent, mais c'est ce que Dieu dit. Et Caleb, il s'est aligné avec ce que Dieu a dit. Et comme disait Nadine la semaine dernière, parfois on est dans des situations, on ne sait pas trop l'avenir, on est un peu là, on connaît le passé, on connaît un peu le présent, mais l'avenir, on ne sait pas. Et ce Caleb-là, il a dit, mais moi, je suivis la voie de l'Éternel. Et on voit que Caleb a été celui qui a, à la fin de sa vie, a demandé cette montagne. Et Dieu lui a, Josué lui a donné, Josué, type de Jésus, lui a donné. Et il a demandé le plus difficile, il a demandé des défis. C'était un homme de défi. Donc le premier mai, il est là, il est très important. Et il est dit maintenant, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Alors nous avons des défis, et je crois que le cri de Dieu, c'est le cri en nous, c'est mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est le plus important. Alors, il y a un autre passage que j'aimerais plus m'attarder, auquel j'aimerais plus m'attarder, c'est 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, versets 6 et suivants. Et là, vous avez un mets extraordinaire, un mets de David. Mais alors celui-là, il est tout aussi beau, sinon encore plus, que celui de Caleb. Donc 1 Samuel 30. Lorsque le troisième jour, David arriva à Tsilag avec ses hommes. Donc il revient d'un combat, il avait guerroyé pour ses familles, pour son peuple, pour l'Éternel quelque part. Et lorsque le troisième jour, David arriva à Tsilag, donc sa base avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Négev et à Tsilag. Ils avaient frappé Tsilag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort, mais les avaient emmenés et s'étaient remis en route. Et David et ses hommes arrivèrent à la ville et voici, elle était incendiée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux, vous voyez, il y a ces passages dans la vie de ces hommes d'abattement où on a envie de tout lâcher. Et ça a été le cas de David, jusqu'aux larmes. Ce qu'ils avaient de plus cher était parti, emmené captif. Est-ce qu'on a déjà vécu ça? Peut-être pas à ce point-là. David a vécu ça. Et il est dit que David fut dans une grande détresse. C'est très rare, le terme « grande détresse » dans la Bible. Il ne se trouve pas souvent. Grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. Ses propres amis avec qui il a combattu commençaient à se retourner contre lui. « Regarde où tu nous as amenés. Regarde un peu la galère. On a suivi, on a combattu, on s'est battu, on a fait des sacrifices. Et c'est pour arriver à quoi? À tout perdre ?» Et là, il y avait une amertume profonde qui était là. Parfois, on se dit ça. On se dit, mais moi, je me bats pour toi, Seigneur. Moi, je regarde ce que j'ai fait, et etc. Et est-ce que c'est pour là où j'en suis? Et alors, il est dit, tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David, et c'est ça le mais, le deuxième grand mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Et dans ce mais, il y a toute la délivrance. Dans ce mais, il y a la royauté de David. Dans ce mais, il y a David qui va grandir en royauté et en autorité. Il n'y aurait pas eu ce mais dans sa bouche. Il n'y aurait pas eu cette détermination à ce moment précis. Il n'accédait pas à cette pleine royauté qui était pour lui, que Dieu avait prévue pour lui. Là, il n'était pas encore roi. Hein. Et donc, il y a des expériences avant le règne que Dieu... Dieu nous dit, je veux que tu règnes avec moi. Jésus dit, vous allez régner avec moi. Mais pour faire des rois, l'école des rois, eh bien c'est des écoles où on doit passer parfois le test de la déception et le test de l'apparente défaite. Et ça, c'était David, vous voyez, la réaction. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne va pas chercher un secours au niveau des hommes, il n'y en avait pas. Il n'y avait plus d'amis là, il n'y avait plus rien. Il était coincé, tout seul. Et il y a des moments où Dieu fait, il fait ses circonstances. On n'est plus que nous tout seuls devant Dieu. Et Dieu dit, est-ce que tu vas me chercher? Est-ce que tu vas te trouver la force en moi? Il dit au sacrificateur, Abiathar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? L'Éternel lui dit, poursuis, car sûrement tu rattraperas, tu délivreras. Et la suite de l'histoire nous montre une délivrance. Ils vont, Dieu vraiment être sur le chemin, et il y aura une restitution totale. Pourquoi est-ce qu'ils ont, est-ce que Dieu a permis qu'ils soient volés? Ça, c'est étonnant. Pourquoi est-ce que Dieu permet parfois qu'on soit dépouillé? C'est quand même une grande question, ça. Pourquoi est-ce qu'il permet qu'on soit dépouillé? On a vu l'histoire de Job la dernière fois, et il n'y a pas de réponse toute claire par rapport à cette question. Mais ce qu'on sait, c'est la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, c'est la royauté, c'est la victoire. Alors Dieu, il voit ça, comme disait Nadine la fois dernière, il voit l'ensemble. Et c'est cette fin qu'il voit, et qui nous dit, fais confiance, même si tu ne vois pas la fin, moi je la vois, fais confiance. La fin de l'histoire, c'est Dieu pour nous. La fin de l'histoire, c'est lui. Et il a tout dans ses mains, et il rit de ses ennemis. C'est pourquoi nous pouvons être comme David et dire, Seigneur, si je sens de l'amertume, l'abattement, je veux me fortifier en toi. Et ça c'est notre responsabilité. En fait, ça c'est notre responsabilité. Dieu dit, fortifie-toi. Et à Josué, il n'a pas dit, je te fortifie. À Josué, il a dit, fortifie-toi. Alors ça, c'est la part de l'homme de chercher Dieu. C'est la part. Dieu, il a tout fait. Mais la part de l'homme, c'est dire, Seigneur, je te cherche. Seigneur, je veux me tourner vers toi, me confier en toi. Et ça, personne, aucun ange, même pas le Saint-Esprit, ne peut faire à notre place. C'est nous qui sommes appelés à faire confiance, à développer la foi. Voilà David, le mais de David. Mais David. Ça, c'est un deuxième mais extrêmement important. Dans 2 Samuel, chapitre 5, un peu plus loin, il y en a un beau aussi. 2 Samuel, chapitre 5, versets 6 à 10. Alors, le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera pas ici. C'était déterminé, c'était dit. Les Jébusiens disent, celui-là, il ne rentrera pas. Regardez, verset 7. « Mais David, encore une fois, les hommes disent, les puissances des ténèbres disent, mais David, lui, il dit autre chose. Et dit la parole de Dieu. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Et David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et les atteindra par ce canal, ces boiteux et ces aveugles haïs par David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. Voyez. Donc il prend ce défi comme un marchepied. C'est le marchepied. Et en fait, les difficultés sont toujours un marchepied possible pour vaincre nos ennemis. Et vous savez que les rois, on l'avait déjà dit ici, mais à l'époque de Josué, quand vous aviez vaincu des rois, vous montiez sur votre trône, le roi David, et les rois faisaient ça à l'époque, ils avaient les rois qui étaient vaincus, qui étaient à genoux, la nuque baissée, et le roi montait sur les nuques pour accéder à son trône. Et ça, c'est l'image de ce que Jésus va faire. Il va monter sur son trône lorsque tous ses ennemis sont sous ses pieds. Les pieds, c'est qui? C'est nous, l'Église. Et nous sommes appelés, nous, l'Église, les pieds de Jésus, à fouler sous nos pieds les ennemis du roi. Et l'Église glorieuse qui foule à ses pieds les ennemis du roi, elle prépare la venue du roi. Donc, la venue de Jésus, elle est hâtée par notre obéissance. La venue de Jésus, elle est hâtée par notre mais de la foi. La venue de Jésus, elle est hâtée par l'acceptation de voir dans les défis des marchepieds possibles. Et ça, ça a été le cœur de David. Un cœur battant, un cœur de louange, un cœur de guerrier. Mais ce cœur-là, c'est le mais, cette détermination de David, qui est assez extraordinaire. On retrouve la même chose chez un Caleb, mais David en particulier. Mais David s'empara. Et c'est devenu Jérusalem. Hein. Les Jébusiens, tout ça, c'est la ville de Jérusalem, c'est la cité de Sion. Aujourd'hui encore, on l'appelle la cité de David. C'est pas rien. Mais il a fallu l'arracher. Dieu lui dit, je te la donne, mais il y avait plein d'ennemis. C'est quand même incroyable. Tout ce que Dieu nous donne, la plupart des choses qu'il nous donne, il faut les arracher, quoi. Moi, alors, il nous donne le salut, ça c'est vrai. Il nous donne son pardon, ça c'est des choses, c'est pas difficile. Mais, quand même, il y a des choses à prendre, et à prendre par la foi. Ce n'est pas nos efforts, mais c'est la foi. C'est la prise de la foi. Et ça, c'est mystérieux. Et on peut mourir en n'ayant jamais fait le combat de la foi. C'est pour ça que ces histoires sont là pour nous, comme des images, comme des rappels, pour nous dire, ben voilà, David, tu vois les situations qu'il a eues, ce n'était pas facile, mais il y a eu ce « mais » qui va à contre-courant. Alors maintenant, j'aimerais signifier quand c'est Dieu qui dit « mais ». Alors là, on a vu quand l'homme dit « mais il y a quand Dieu dit « mais ». C'est dans Acte 5, versets 16 à 20. Alors vous allez voir, c'est aussi intéressant. Quand Dieu dit « mais », attention, on dit « attention les vélos hein. ». Acte 5, versets 16 à 20. Il y avait de nombreux miracles. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait les malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, portèrent les mains sur les apôtres, les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Là, le mais, c'était mais l'ange. Alors les gens, ils font des plans, toutes ces sortes de plans, et tout d'un coup, l'ange de Dieu vient, et tous ces plans terminés. C'était de l'intimidation. Et ils ont continué à prêcher, à guérir les malades, ils ont été fortifiés. C'est l'ange de Dieu qui est venu. Là, on n'a pas d'intervention humaine. C'est Dieu qui a dit, maintenant, ça suffit. Sortez de prison. Et donc, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, mais c'est Dieu qui fait ce qu'il veut, en fin de compte. Et c'est ça. Et nous, nous devons avoir l'assurance que Dieu est souverain, qu'il est souverain, qu'il maîtrise tout. Il est les détails. On n'est pas venu ici par hasard. On n'est pas venu ici avec une bonne idée. Et je crois que le ministère, que ce soit l'école chrétienne, que ce soit les ministères de chacun ici, ce n'est pas par hasard. Dieu est souverain. Dieu règne. Il n'y a rien qui peut empêcher ce règne de Dieu, cette volonté de Dieu de s'accomplir. La seule chose qu'il nous demande, c'est croire. Croire, malgré les circonstances. Et la voix des circonstances, elle doit être bien moins forte que la voix de Dieu. C'est ça qui est important, la voix de Dieu. Alors ensuite, un autre passage, et c'est dans Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24. Hébreux 12, versets 18 à 24. Rapidement, il y a aussi un beau texte ici. « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu. » Il fait référence à Moïse et la montagne où il y a eu les tables de la loi. « Vous ne vous êtes pas approchés des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent, qui ne leur en fut plus adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche cette montagne, elle sera lapidée. » Et le spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté, tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés, et ça c'est nous, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc parfois on est dans des circonstances, on a l'impression que l'ennemi y s'approche. Mais Dieu dit dans sa parole, mais toi, sais-tu de qui tu t'es approché ? Sais-tu qui c'est qui est à côté de toi ? Et il nous est dit, tu t'es approché de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés. Et cette vision-là, c'est la vision qui suit Hébreux 11, le chapitre de la foi, le chapitre des héros de la foi qui ont su, malgré toutes les difficultés, tenir bon. Le mais de Jésus, plus spécifiquement, alors il y a dans l'histoire de Jésus un épisode assez fantastique. C'est toujours au début des ministères que ça se passe. C'est dans Luc chapitre 4. Et là aussi, il y a un épisode étonnant. Je ne sais pas si vous avez réalisé que Jésus, il a risqué sa peau bien avant la croix. Bien avant la croix. Alors déjà, petit bébé, hein, mais encore un petit peu après, on voit ça dans Luc 4, versets 28 à 30. Alors vous avez cette... il est à Nazareth et il prêche. Et il y avait beaucoup de lépreux en Israël, dit Jésus, du temps d'Élisée. Et cependant, aucun d'eux fut purifié, verset 27. Si ce n'est Naaman le Syrien. Donc là, il montre l'incrédulité des gens qu'il a devant lui. Il leur dit, mais regardez, même les païens, ce sont eux qui ont cru. Et verset 28, les gens de Nazareth, ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville, le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Situation tragique. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a toute la ville qui va le pousser du précipice. Et regardez le verset. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Terminé. Fini. Où ils sont passés les autres? Moi, j'en sais rien. Ils ne sont plus là. Ils ne pouvaient plus, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Ils ne peuvent faire que ce que Dieu leur laisse faire. Donc toute cette foule contre Jésus, et vous savez, si vous avez été à Nazareth, c'est quand même escarpé, quoi. Hein, on se fait mal, on se tue. Hein, et alors, mais Jésus passant au milieu d'eux. Voilà, c'est ça qui est important. Et il y a un autre mais. Dans Matthieu 5, il y en a plusieurs, et c'est les grands mets de Jésus, les grands mets dans les béatitudes, Et ça, c'est extraordinaire. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, celui qui tuera mérite d'être puni. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère racal mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne, etc. Et tous les mets de Jésus montrent qu'il était le Seigneur de la loi, le Seigneur de la Torah, le Seigneur de l'interprétation de la Bible, le Seigneur de l'interprétation de tout l'univers. Et ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Mais moi, je vous dis, c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, soyons attentifs à la parole que Dieu dit sur nous, sur l'Église, sur les ministères qui sont là. C'est ce que Dieu dit qui est important. Et on doit entendre cette voix du Seigneur dans nos cœurs. Et cette voix du Seigneur, quand on le suit honnêtement, eh bien, je peux vous assurer, c'est la voix d'un Père qui encourage. Et qui n'attend pas que tu tombes pour dire « Alors, t'as vu ?» Non, il est là, il t'encourage, il te relève. Et parfois, dans ce qu'on pense être des détours, eh bien, nous retrouvons en fin de compte que rien n'était vraiment des détours. Et ça, c'est lorsqu'on voit après dans l'histoire. Voyez. Donc, le « mais » qui est important, les « mais » pour comprendre la Bible, les « mais » de Jésus. Toi, qu'est-ce que tu penses de toi ? C'est pas grave ce que tu penses de toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Et parfois, tu peux entendre l'accusateur qui dit « Regarde ce que tu fais, mais qu'est-ce que Dieu dit ?» C'est ça qui est important. Ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit sur toi, c'est « Mon fils, ma fille, je t'aime d'un amour éternel, rien ne peut te séparer de mon amour, rien ne peut séparer, aucune accusation, aucune condamnation, et les hommes, personne ne peut arrêter ce que moi j'ai commencé. » Voilà un peu. Donc, ayons ce, tout simplement, je m'arrête là, mais ayons ce cœur de David, ce cœur de Caleb, et face à des situations qui semblent négatives, contraires, qu'est-ce que Dieu dit ? Et ça, c'est l'école de la foi. Voilà. Alors, que le Seigneur nous aide. Seigneur, merci pour ta parole, et je te prie que chacun d'entre nous, dans cette école de la foi, on puisse être de ces David qui disons, mais Dieu dit, mais moi, je vais m'emparer, mais moi, je vais marcher dans la voie de l'Éternel. Tout autour de moi, dit le contraire, mais moi, je veux marcher avec l'Éternel. Mais moi, je veux marcher avec mon Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci d'encourager chacun d'entre nous, Seigneur. Merci d'ôter tout esprit d'abattement, de lassitude, de déception. Seigneur, toi, tu n'es jamais déçu par tes enfants, parce que tu les vois au travers du Christ. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, que nous ne soyons pas influencés par les circonstances et les vents contraires, quels qu'ils soient, mais que nous puissions te voir et nous appuyer sur toi. Merci, Seigneur. Nous te bénissons ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen.